Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Jérôme Chapuis.
Et dans un instant, direction Kiev, à la veille de la finale de l'Eurovision, la candidate française Alma a rencontré ses supporters et des enfants ukrainiens qui apprennent le français. Laurent Marsic l'a suivi, il est avec nous. À la télé ce week-end, des émissions sur l'histoire de l'Eurovision et un documentaire sur les coulisses des passations de pouvoir. Ce seront les choix d'Isabelle Morini-Bosque. Trois nouveautés dans l'actualité musicale, Florent Pagny et Raphaël vont nous présenter les premiers extraits de leur prochain album et Steven Bellery nous dévoilera en exclusivité un aperçu du disque hommage Elle et Barbara, elle au pluriel. On entendra Zazie qui revisite la solitude. Et puis les confidences de Pétillon, le dessinateur au micro de Monique Younes. Ses dessins de presse parus pendant le quinquennat de François Hollande sont réunis dans un album intitulé Un certain climat.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Et donc avant toute chose, J-1, avant la finale du 62e concours de l'Eurovision, nous partons tout de suite en Ukraine, à Kiev, où nous retrouvons l'envoyé spécial de RTL. Bonjour Laurent Marsic.
Bonjour tout le monde.
Alors, demain, Alma sera sur la scène de l'Arena de Kiev pour cette grande finale, hein, avec sa chanson Requiem. À quoi va ressembler sa dernière journée ?
Alors, comme chaque jour, ça a déjà commencé par une séance de cardio. Elle va avoir du coaching vocal derrière, puis répétition avec son chorégraphe. Et ce soir, c'est la grande répétition de la finale. On fait comme si on était en direct. Parce que c'est ce soir. Oui, ce soir, c'est important. C'est ce soir que les jurys professionnels dans chaque pays vont donner leurs notes, que nous découvrirons demain après avoir eu le vote du public.
D'accord, donc ce sera déjà en quelque sorte un peu joué ce soir. L'Eurovision, ce n'est pas que de la chanson. Vous avez, vous, vécu hier une journée sous le signe de la diplomatie.
Exactement. À la résidence de France à Kiev, Madame l'ambassadrice de France, Isabelle Dumont, avait mis les petits plats dans les grands et elle avait un message.
Nous avons cette semaine en Ukraine deux ambassadrices de France, l'ambassadrice officielle et vous, qui êtes en ce moment, ces jours-ci, et qui serez encore plus samedi, notre ambassadrice de la musique. Merci à vous. Beaucoup.
Et quand nous sommes arrivés, des dizaines de jeunes filles avec des petits drapeaux bleus, blancs et rouges, elles ont fait une chorégraphie avec nous, attendez, des collégiennes des écoles 20 et 49 de Kiev. Ici, ce sont des numéros. Et cette cérémonie a débuté comme ceci. N'échappe pas, hein, l'oiseau et l'enfant. Alma a regardé ça très émue, très touchée, et puis on a pu aller parler à ces jeunes filles des écoles ukrainiennes.
Quand Alma elle est entrée ici, j'étais choquée, je ne pouvais dire rien, je l'ai vue, mais je n'ai pas dit même bonjour parce que j'étais vraiment choquée.
Voilà, bon, être choqué en langage de jeunes, ça veut dire ému. En tout cas, ces jeunes partagent un amour immense.
On avait compris, hein.
Voilà. Non, mais je précise. En tout cas, ces jeunes partagent un amour immense pour la France et la langue française.
La langue française, c'est comme une mélodie, comme aussi une chanson. Donc quand on parle, on a l'impression qu'on chante.
C'est beau.
Ah, ils sont bien, ces Ukrainiens.
À la française, avec Petit Four, évidemment, et une ambassadrice ravie. L'Eurovision, c'est aussi pour elle une occasion particulière pour faire rayonner la culture française. Isabelle Dumont.
Pour nous, c'est tout simplement du plaisir. Ça fait partie à la fois du travail, mais aussi de ce qu'on a envie de faire en tant que personne, de rencontrer des artistes. C'est vraiment très beau dans la vie d'un diplomate que de pouvoir valoriser le travail des artistes français, de valoriser la France, de faire rayonner notre pays à l'étranger, en l'occurrence ici en Ukraine. C'est que du bon, c'est vraiment que du bon.
Tout ça, résume Alma, c'est aussi de l'énergie positive qu'on emmagasine pour soi.
La France a une super image à l'étranger. Et donc c'est un vrai plaisir de représenter la femme française, Paris, enfin, c'est vraiment une très très grande fierté. On sent l'effervescence, on sent que les gens sont derrière moi. Ici, les Eurofans, ils te donnent tellement beaucoup de force, d'amour, de soutien, c'est hallucinant.
Eh bien justement, les Eurofans sont arrivés juste après les écolières, avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, en reprenant la chanson Requiem. Benoît Blazic est le secrétaire général d'Eurofan, l'association officielle des fans de l'Eurovision.
C'est en train de monter, j'ai vu les répétitions, on a vu les répétitions, on les guette, on essaie aussi de voir les vidéos qui traînent, et c'est un bonheur, oui, ça va monter, mais on a en confiance, comme Amir l'an dernier, le show final du samedi était formidable, et Alma va tout donner samedi soir.
Deux infos pour terminer. La première place, la première, on a reçu ce matin l'ordre de passage des candidats pour la finale. Et comme pour Marie-Myriam en 77, Alma se produira en dernière position. Ça, c'est une très bonne nouvelle.
Un signe.
Exact. Ouais, peut-être. Et puis je ne veux pas vous laisser sans la larme de la soirée hier soir lors de la deuxième demi-finale. Un des présentateurs s'approche de la candidate de la Macédoine, Jana Burcheska. On venait d'apprendre qu'elle était enceinte, ce qui était déjà pas mal. À ce moment-là, elle révèle que son compagnon, le papa, n'est autre que le garçon qui est à côté d'elle. Et la chose incroyable, il attrape dans sa poche une bague et fait en direct cette demande de mariage du jamais vu à l'Eurovision. Hélas pour elle, comme on dit, heureux en amour, malheureux au jeu, elle a été éliminée et n'ira pas en finale demain.
Est-ce que vous êtes allé danser à l'Euroclub, Laurent ?
Non, je travaille, monsieur.
Ce sera après.
Est-ce que vous êtes allé manger à l'Eurocantine ?
Voilà, oui.
Et Alma, quand même, on va l'écouter, ça va donner ça. Requiem, Alma, c'est donc demain soir, on croise les doigts. Merci Laurent Marsic, on va vous retrouver demain évidemment. Et puis cette finale de l'Eurovision, un événement à suivre sur France 2 en direct de Kiev, 21h, avec aux commentaires pour la France, Marianne James et Stéphane Bern.
Et Amir,
oui. Bien sûr, merci Isabelle. Isabelle Morini-Bosque, on va rester avec vous. Les audiences sont un petit peu de retard ce matin, c'est ça, on va voir dans un instant. Avant, on va parler, reparler de l'Eurovision, puisque quand on parle d'Eurovision, on parle aussi de l'histoire du concours. Ce soir, à 22h25, sur Arte, et demain, juste avant 1h du matin, 0h50, ce sera sur la 2, après le grand concours.
Oui, alors Arte, c'est plus politique, la 2, c'est plus historique. Alors, l'histoire de l'Eurovision, moi j'adore. On en a fait du chemin depuis 56, depuis la création par 10 pays qui veulent créer une Europe du plaisir commun. La première gagnante, Lissassia et Suisse, robe de gala et smoking obligatoire.
Couleur du ciel, parfum de mes vins.
Et tout de suite, les couacs. En 58, Catherine Langeais lance l'Eurovision alors que l'artiste italien chante déjà. C'est d'ailleurs le premier tube mondial.
Eh bien, je crois que maintenant, il va être l'heure de rejoindre Hilversum en Hollande, ce charmant petit studio de Hollande.
Aujourd'hui, on ne compte plus les versions de Volare.
Dean Martin. Cliff Richard. Dalida, évidemment. Et David Bowie. Et cette année-là, c'est nous qui gagnons avec André Claveau.
Mon amour, ma princesse enfermée.
Rebelote 2 ans plus tard grâce à Jacqueline Boyer, la fille de Lucienne, vous savez, celle qui chantait « Parlez-moi d'amour ».
Philippe a deux châteaux, le premier en Écosse.
Ça m'éclate complètement. Et on gagne encore avec Isabelle Aubry en 62. L'année suivante, on pense que c'est du tout cuit avec Alain Barrière. Eh bien non, pareil pour Guy Mardel en 65, ça va pourtant être de immenses succès.
Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Jamais.
Guy Mardel qui dit « N'avoue jamais » 68 fois dans la chanson. Alors faut-il vraiment rappeler qui gagne en 65 pour le Luxembourg ?
Au Luxembourg, poupée de cire, poupée de son. C'est France Gall.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son.
France Gall, vous êtes française. Alors pourquoi avez-vous concouru sous les couleurs luxembourgeoises ?
C'est-à-dire ça, je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas. Tout s'est passé derrière moi.
Vous a-t-on imposé la chanson ?
Non, on ne l'a pas imposé. Je l'ai choisie en accord avec l'état-major du pays du Luxembourg.
L'état-major, c'est RTL. Alors on s'étonne qu'elle ne sourit pas, c'est parce qu'elle vient de se faire larguer. On connaît l'histoire par téléphone, François. Par son compagnon Claude François Avalou. Oui. Il pressent le succès, il a raison, c'est pour ça qu'il est jaloux. Même les Japonais en raffolent, comme elle le prouve à son auteur Gainsbourg.
C'est moi en japonais.
Qu'est-ce que ça veut ?
Watashi wa yume ni ryu shansou.
Voilà, l'émission évolue avec la société, apparition des pantalons en 66 pour les femmes. 67, le mouvement hippie arrive avec celle qui chante avec une jupe au ras du bonheur et pieds nus, celle que j'adore, l'anglaise Sandy Shaw. Il y aura 200 versions et en 69, vous le verrez, c'est la cata. Il y a 4 ex-échos du jamais vu.
Qu'est-ce que je fais avec le prix ?
Il faut simplement donner les 4 parce qu'il y a 4 gagnants.
4 gagnants ?
4 gagnants sur le scénario.
C'est le cafouillage complet. Il y aura tirage au sort pour savoir qui diffusera en 70. Cette année-là, on autorise les groupes. En 74, les candidats peuvent chanter dans la langue de leur choix. C'était pas le cas avant. Mm-hmm. Celle qui peut pas chanter à cette année-là, c'est la Française d'Annie, puisque la France est en deuil pour cause du décès de Georges Pompidou. Et puis évidemment, ben, on sait ceux qui vont gagner. Hein. C'est le groupe ABBA. Alors je vais quand même pas le repasser une nouvelle fois. Mère et Myriam non plus, on vient de l'entendre. Mais en 76, on oublie que la Française Karine Ferry était deuxième avec son petit copain choriste, un certain Daniel Balavoine.
Alors Isabelle, dimanche, vous nous conseillez un documentaire sur la 5, Jour de Sacre à l'Élysée.
Oui, on se couchera moins bête dimanche en sachant toutes les petites histoires de la grande, du moins sur les jours de passation depuis 60 ans entre les présidents, l'entrant et le sortant. On doit ce film à Patrice Duhamel et Jacques Santamaria d'après leur livre paru chez Plon, La Formule Enrichie vient de sortir. On retient Giscard sidéré du désintérêt que François Mitterrand lui manifeste. Chirac qui gaffe en raccompagnant en bas des marches François Mitterrand, ça ne se fait pas du tout. Georges Pompidou malade qui enlève de son cou le médaillon contenant le code nucléaire. Le plus grave côtoie le plus léger. Moi, j'ai choisi l'anecdotique. Michel Sarras et Patrice Duhamel en voix off, racontant l'avant-passation entre François Mitterrand et Jacques Chirac.
Trois jours avant, il a dit « Enlevez-moi les meubles de Paulin. Le président Chirac est dans la filiation du général de Gaulle. Remettez le bureau du général. » Donc, on a retrouvé les meubles du général. On a déménagé le bureau de Paulin. J'étais pas mécontent, parce que je le trouvais horrible.
Mitterrand souhaite aussi aborder une question qui lui tient à cœur. Les canards qu'il a fait venir de Rambouillet et qui barbotent dans la pièce d'eau du parc.
Et les canards, attention, faites attention à mes canards.
La rumeur, mais ce n'est que la rumeur, dit que les chiens de Jacques Chirac ont oublié la recommandation présidentielle.
Et voilà, c'est un couac. Et donc, c'est un formidable document à 20h50 dimanche sur France 5. Et alors, côté audience, il n'y a rien à signaler. Ouais. Hein, Alice Nevers est en tête, 5 700 000 téléspectateurs. Devant Envoyé spécial, qui est alors nettement plus fort que d'habitude, 2 400 000 personnes étaient sur la 2, 13% du public. Et en troisième position, c'est l'Europa League sur M6, 2 300 000 téléspectateurs. Voilà, il n'y a rien d'autre
énorme
à en dire.
Énorme score de la 7e compagnie sur TMC.
Tout à fait. 2 300 000 téléspectateurs. Oui, ben oui, c'est inoxydable.
On peut toujours compter sur Steven Bellery pour relever l'essentiel.
Voilà, j'allais le lire, figurez-vous. J'adore ce...
Steven Bellery qui va être avec nous dans quelques instants pour ce superbe album d'hommage à Barbara. LVT, Laissez-vous tenter, revient dans un instant.
RTL Matin, Laissez-vous tenter avec Jérôme Chapuis.
Et on balaye à présent l'actualité musicale avec Steven Bellery. Bonjour Steven.
Bonjour à tous.
On commence par une exclusivité. Vous nous faites découvrir ce matin un extrait de l'album Hommage à Barbara qui est attendu le mois prochain.
Un disque qui s'intitulera Elle et Barbara, sorti prévu le 9 juin. 13 chanteuses rendront hommage à la dame en noir décédée il y a 20 ans cette année. Le projet a été réalisé par Edith Fambuena et le casting est plutôt séduisant. Nolwenn Leroy, Louane, Mélodie Gardot, Juliette Armanet, Jeanne Chéral, Olivia Ruiz ou encore Zazie. La coach de The Voice a choisi de revisiter un morceau de 1965, extrait de l'album Le Mal de Vivre. Zazie chante La Solitude de Barbara, extrait.
Depuis, elle me fait des nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou. Elle s'est enroulée à mes hanches, elle se couche à mes genoux. Partout, elle me fait des portes et elle me suit pas.
La solitude revue par Zazie, c'est l'une des reprises à retrouver le 9 juin dans l'album Elle et Barbara.
Ah, c'est effectivement très surprenant. On poursuit avec la nouveauté du jour, le retour de Florent Pagny. Un an après la sortie de Habana, le chanteur prépare son prochain album en français, Steven.
Ouais, qui succédera au Triomphe de Vieillir avec toi, paru en 2013 et écoulé à plus de 800 000 exemplaires. Ce 14e album studio devrait sortir fin septembre, pile au moment où Florent Pagny lancera sa nouvelle tournée, le 55 Tours, référence à son âge, 55 ans, et Florent Pagny a décidé de surprendre. Il avait révélé ici même en décembre son envie de sonorité moderne. Il est donc allé chercher l'un des rappeurs les plus populaires du moment. J'ai joint Florent Pagny chez lui à Miami. Il raconte pour RTL comment cette nouvelle chanson est née. Elle s'intitule Le Présent d'abord.
Regarde autour, tout est là, tout est fait pour nous.
C'est une
collaboration, Maître Gims et moi-même, dans les paroles, on s'était dit qu'on allait peut-être aller chercher un camarade de jeu que j'aime bien, qui s'appelle Lionel Florence, et mélanger et mixer ces trois pôles en se disant, bon, quel serait le sujet ? Moi, il y a un truc qui me plaît bien dernièrement, j'ai écouté une étude sur le mode de fonctionnement de l'humain où on considère que l'esprit, les pensées, à un tiers, on les dédie à son passé, à un tiers, à ce qu'on vit aujourd'hui, et à un tiers, à ce qu'on aimerait vivre dans son futur. Et finalement, on pourrait passer plus de temps à s'occuper de ce qui nous arrive au moment présent, de ce qu'on a autour de nous qui nous aime et qui va bien, et d'un seul coup, d'être un petit peu plus disponible. C'est une leçon de vie, c'est tout.
Laissons-nous vivre le présent d'abord. Laissons-nous vivre un instant plus fort. Laissons-nous suivre nos envies d'encore. Laissons-nous vivre aujourd'hui d'abord.
Surprenant mais efficace, le présent d'abord, composé par Maître Gims et réalisé par son complice Dany Sinté. Question à Florent Pagny, pourquoi ce virage ?
À un moment, quand on a la chance de pouvoir utiliser une voix et puis en plus de ne pas être bloqué dans un univers précis, une couleur précise avec les compositions et les choses comme ça en étant qu'un interprète, c'est vrai que j'ai envie d'explorer plein de trucs et de me faire plaisir. Maître Gims cartonne avec des chansons, avec en plus cette mode de production. Et je leur dis toujours, c'est en plastique, mais ça sonne monstrueux, quoi. C'est génial, les mômes, ils vont dans leur chambre et avec leur bécane, ils sortent des productions que nous, on met une semaine, 10 jours, 15 jours à faire. J'adore, je suis dans mon bain. Mais moderne, et puis bon, moi, je suis quand même déjà un peu vintage, donc il y aura un mix de tout ça. Et cette chanson qui arrive, le présent d'abord, entre sa conception, sa réale, ce qu'elle veut raconter, je peux vous dire qu'elle ne va pas faire l'unanimité non plus parce qu'elle est particulière et c'est tout ce que j'aime. Moi, je déteste vivre le même truc.
C'est le nouveau Florent Pagny, disponible en numérique le 19 mai, nouvel album fin septembre.
Alors lui aussi dévoile une toute nouvelle chanson ce vendredi. Steven, il s'agit de Raphaël.
2 ans après Somnambule, enregistré avec une classe de CM2, Raphaël publiera le 21 septembre prochain Anticyclone. Ce sera son 8e enregistrement. Un disque que j'ai pu écouter et qui marque le retour du chanteur à l'épure, à des mélodies simples, dépouillées, c'est tant mieux. Gaëtan Roussel a réalisé les 11 chansons de cet album qui a été écrit en 2 semaines seulement. Raphaël a été très inspiré l'année dernière. Il venait tout juste de terminer l'écriture de son premier recueil de nouvelles, Retourner à la mer, récompensé il y a quelques jours par le Goncourt de la nouvelle. Raphaël présente ce nouveau morceau qui s'appelle L'année la plus chaude de tous les temps.
Il pleut des cordes sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer, le ciel est bleu pourtant.
Elle est née au piano, comme le reste du disque, un texte, et puis écrit au piano, très simplement. J'ai tout écrit au piano, je suis pas passé par des maquettes, donc je suis passé directement dans un cahier avec un dictaphone du iPhone à la version studio réalisée par Julien et Gaëtan Roussel. Voilà, j'ai dû l'écrire l'été dernier, peut-être au mois de juillet, ou quelque chose comme ça. J'ai écrit au bord de la mer, c'était en Italie, j'écoute beaucoup la météo marine italienne, notamment, j'adore ça, il y a rien de plus beau au monde. Ça parle un peu de ça, un peu du monde, parce que c'est vrai que l'année dernière, c'était l'année la plus chaude de tous les temps, depuis lesquelles on enregistre les températures. Donc ça dit quelque chose de la manière dont on abîme le monde, quoi. On voit les glaciers qui fondent avec ces ours qui dérivent sur des morceaux de banquise avec assez peu de perspectives d'avenir. Ça parle de ça et ça parle aussi un peu de la météo qu'on a dans sa tête et comment on peut réagir à ça. Comment est-ce qu'on peut se créer peut-être son propre anticyclone.
L'anticyclone des Açores est sur nous. La main de Dieu est sur nous. Les comètes géantes arrivent. Le canapé dérive. Dans les muséums d'histoire naturelle, les os des dinosaures tremblent, les planètes s'entrechoquent. Et tu n'as encore rien vu, tu n'as encore rien vu. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps.
Raphaël sera de retour dans les bacs le 21 septembre. Il donnera une petite dizaine de concerts seulement avant de débuter à la fin de l'année le tournage de son premier film en tant que réalisateur.
Journal musical signé Steven Bellery. Alors moi, je suis très heureux parce que dans un instant, on va parler de Pétillon. J'adore Pétillon. Dessin de presse avec Monique Younes. À tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Jérôme Chapuis jusqu'à 9h30.
Avec Monique Younes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu ce matin avec un album de dessins de presse qui vous a mis en joie et qui nous met en joie. Il a pour titre Un certain climat. Et c'est une compilation de dessins que René Pétillon a réalisé pour Le Canard enchaîné pendant le quinquennat de François Hollande.
Oui, un quinquennat où a régné un certain climat dans tous les domaines, d'où le titre de cet album édité par Dargo. Alors pour ne pas faire de jaloux, Pétillon a regroupé ses dessins par ordre alphabétique. Ça commence par A comme Afrique et ça se termine par Z comme zadiste, en passant par T comme Tapie, Trier-Veller ou Trump, qui sont tous les trois d'une tendresse torride. Alors on voit Donald Trump présenter son colistier ultra-aériac à ses électeurs en disant « Vous allez l'adorer, il est pire que moi ». Alors il faut de l'esprit pour réussir un bon dessin, mais aussi une bonne dose de sincérité, m'a dit René Pétillon.
Si on est indigné, si on est touché par un sujet, je pense que le dessin sera meilleur. Et alors, mais là, c'est là que ça devient un peu compliqué, parce qu'on ne peut pas travailler uniquement sur l'indignation. Il faut trouver un angle qui soit drôle. Comment faire passer à la fois une sincérité et en même temps un décalage? Il y a des cas où c'est un peu plus compliqué, parce que c'est trop. Par exemple, Donald Trump, c'est trop. Si on traite le personnage lui-même, on ne sait plus que faire. C'est un personnage qui est toujours dans la surenchère. C'est ahurissant, quoi. Que faire de plus que ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait? C'est un dessin, en fait, sur la lâcheté humaine qu'on fait, hein, et sur l'irresponsabilité politique, en fait.
La presse est la principale source d'inspiration de René Pétillon. Il la lit en détail et chaque lundi, il réalise des dessins autour des thèmes qui lui paraissent incontournables. Alors, dessins qu'il envoie aussitôt au Canard enchaîné. Le rédacteur en chef lui propose parfois des thèmes. Mais c'est en se mettant au travail que l'inspiration arrive ou n'arrive pas. Faire rire, ça n'est pas drôle tous les jours. Mais quand ça marche, Pétillon avoue qu'il lui arrive même de rire à ses dessins.
Ça arrive. En fait, le dessin qui me fait rire, c'est l'idée inattendue qui vient et qui me surprend moi-même. Et là, c'est effectivement un moment de jubilation intense.
Est-ce que vous avez des personnages politiques préférés, René Pétillon?
Il y a eu deux personnages que j'ai beaucoup aimé traiter, c'est Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac parce que c'était le roi de la mauvaise foi, et il y avait un côté marrant en plus dans cette mauvaise foi jusqu'au boutiste. Et Sarko à cause de ses revirements, de ses loopings, son agitation, etc. Quoi. C'est un personnage idéal pour un dessinateur. En plus, il y a le mouvement, en plus, c'est Sarkozy, donc on peut le faire bouger dans tous les sens. C'est agréable à dessiner.
Vous avez plus de mal avec Macron?
Macron est beaucoup plus difficile, oui. D'abord, il dit qu'il est ni de droite ni de gauche, donc déjà, on cherche du côté du centre, mais quel centre? Et puis, sur le plan du programme, pour moi, c'est pas très clair, et donc j'attends de voir. Et physiquement, il est assez difficile à dessiner, je trouve. Il est plutôt beau mec, et les beaux mecs, c'est plus difficile à caricaturer que les visages très marqués, qui ont plus de caractère. Mais je pense que le pouvoir vieillit très vite. Donc, peut-être que dans quelques mois, il aura pris quelques rides, je ne sais pas, mais ce sera peut-être plus facile.
Alors, je feuillette le livre, et alors la page son, Pétillon qui commente l'arrivée d'Emmanuel Macron, ancien banquier de Rothschild à Bercy. Il y a trois personnes qui avancent la mine dépitée en disant « si encore, il venait de la banque postale ».
Voilà, on ne sait pas exactement pourquoi c'est drôle, comment ça marche, est-ce que c'est le dessin, est-ce que c'est le texte, est-ce que le dessin sera encore drôle demain, dans 10 ans? Impossible de savoir, mais la surprise de cet album, c'est que la plupart des dessins de Pétillon résistent au temps. Ouais. Exemple, page 9, il y a Berlusconi qui est poursuivi par sa liaison avec une mineure et qui dit au juge « Je lui donnais plus que son âge et elle me donnait moins que le mien. » C'est indémodable. Et puis quand l'église reconnaît Notre-Dame de l'Eau où la Vierge est apparue vers 1664, un buveur de bière s'étonne « Je croyais qu'en 1664, la Vierge était apparue à Cronenbourg. » On rigolera encore en 2064. Les dessins anticléricaux, c'est le dada de Pétillon.
C'est une histoire qui m'est très proche. J'ai été élevé dans un milieu catholique, dans une ambiance extrêmement pieuse. C'est un sujet que je connais, donc tout naturellement, dès qu'une occasion se présente, évidemment, je saute dessus. L'évasion fiscale, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé et que j'aime bien traiter parce que c'est... Il y a la notion de révolte aussi dans le travail des sénateurs de presse, et cette évasion fiscale. Et c'est quelque chose de profondément révoltant qui est en train de ruiner la planète. Et la finance, la spéculation, ça fait partie de mes chevaux de bataille, on peut dire. Mais il y a aussi l'environnement, bien sûr. Ça me met en rage et ça me donne envie de faire des dessins pour dénoncer ce genre de scandale.
Humoriste virtuose, Pétillon est élégant, tendre. Et s'il fallait choisir un dessin dans cette compilation à mourir de rire, je prendrais la prospection de gaz dans les cimetières américains.
C'est une compagnie américaine qui avait décidé de forer à la recherche de gaz dans les cimetières. Évidemment, ça a suscité un tollé. Alors, j'ai représenté une ménagère américaine d'un certain âge qui allume son gaz et on voit la flamme apparaître et elle dit « Walter, c'est toi ?»
en découvrant les dessins de Pétillon, édité par Dargaud. On pardonnerait presque à la politique d'être aussi envahissante, violente et décevante. C'est un des grands chroniqueurs de notre époque. Avec lui, on en arriverait presque à trouver cette époque formidable.
Bon, je suis quelqu'un d'honnête, alors je vous le rends, mais c'est un peu à regret cet album de Pétillon. Merci Monique Younes, Un certain climat. Dans quelques instants, Un certain climat aussi avec Julien Courbet. Merci à toute l'équipe de Laissez-vous tenter. Merci à vous de nous avoir suivis depuis 7h. Yves Calvi revient lundi de 7h à 9h30. Pour le moment, c'est Julien Courbet. Julien, c'est à vous.
Merci les infos, je vous ai compris.